Louis Vogel, la semaine dernière, en son ancienne, mais toute récente quand même, qualité de maire de Melun, nous a parlé de ses rapports avec l'institution judiciaire et, tout spécialement, avec l'interlocuteur devenu naturel qu'est pour un maire le procureur de la République. Il s'imposait donc qu'un procureur puisse venir à son tour vous parler de son métier. Si indigne soit-il, tout homme, disait Paul Valéry, mérite qu'on l'écoute quand il parle de son enclume. Il n'est pas question ici de dignité ou d'indignité, mais bien de l'enclume ou de la charge écrasante qui pèse actuellement sur les procureurs de la République, dont les fonctions ne cessent de se diversifier au point par moment de presque se confondre avec celles des magistrats du siège. Qui l'eût cru il y a quelques années ? Qui doivent lutter contre une petite et moyenne délinquance, Louis Vogel nous en a parlé, que nos compatriotes jugent insupportable, qui sont confrontés à des formes de délinquance traditionnelles, de plus en plus violentes, nous pensons tous au trafic de drogue, à des délinquants de plus en plus jeunes, mais aussi à de nouvelles formes de délinquance, issues notamment des développements de l'informatique, qui doivent enfin faire face à une accumulation de priorités, toutes plus légitimes les unes que les autres, toutes plus prioritaires les unes que les autres, violence sexuelle, violence intrafamiliale, harcèlement scolaire, lutte contre toutes les formes de racisme, et le tout avec des effectifs qui sont en réalité très limités. L'inflation législative en matière pénale est la règle. On crée de nouvelles infractions, on n'en supprime que rarement, pour ne pas dire jamais, même si les textes en cause ne sont que rarissimement, voire jamais appliqués. Donc Jean-Baptiste Bladier va nous parler de son enclume. Pourquoi lui plutôt qu'un autre ? D'abord parce qu'il exerce en Seine-et-Marne, tout près de Melun, et c'était important dès lors qu'il parle après un élu de ce département. Ensuite parce que son parquet est important, quoique de taille moyenne, et à ce titre il est très représentatif de ce qu'est à l'heure actuelle l'activité d'un procureur de la République tenu de se partager entre de multiples tâches. Ensuite, parce qu'il est expérimenté, c'est quand même l'argument essentiel, pour avoir successivement exercé les fonctions de substitut du procureur de la République à Angers, de chef de cabinet du directeur des affaires criminelles et des grâces au ministère de la Justice, de substitut du procureur général près la cour d'appel d'Orléans, avant d'être procureur de la République, successivement à Soissons, puis à Senlis, enfin, avant de rejoindre Meaux, qui est un parquet de 20 magistrats, il nous le dira, c'est son troisième parquet, avant de plus important encore, c'est l'évidence. Il a donc une palette d'expériences, il a déjà frappé plusieurs enclumes, dans des lieux différents, dans des contextes urbains ou ruraux, ou les deux à la fois différents, et c'est important. Et j'ajoute qu'il fut président de la Conférence des procureurs de la République, qui est un organe représentatif des procureurs de la République et que consulte fréquemment le ministère de la Justice. Si vous voyez dans ce propos introductif et de présentation un peu d'enthousiasme, vous n'oublierez pas que je fus pendant 5 ans et demi procureur de la République de Paris. Vous avez la parole, Jean-Baptiste Bladier.
Monsieur le Président, Monsieur le Chancelier, Monsieur le secrétaire perpétuel, mesdames et messieurs les membres de l'Académie. Si, comme l'affirmait devant vous le 8 janvier dernier François Sureau, la justice est une vertu et juger est un péché, les procureurs de la République chargés d'administrer l'accusation sont assurément des pécheurs impénitents. Pourtant, si écoutant toujours ce même auteur, la procédure contradictoire trouve son origine dans les Écritures, on me permettra d'observer que le procès initial qui contribua à poser les fondements de ce que notre culture a de judéo-chrétien et qui se tint à Jérusalem il y a environ 2000 ans, aurait sans doute davantage répondu aux exigences de cette même procédure contradictoire si l'accusé avait certes bénéficié d'un avocat, mais aussi, je le crois, si l'accusation avait été portée par une autorité compétente, soumise à une stricte exigence d'impartialité, et soucieuse de fonder son argumentaire sur une norme démocratiquement délibérée et sur des preuves formelles contradictoirement débattues. C'est dire combien les procureurs, à défaut d'être absous, sont indispensables au procès pénal. Malgré cela, le sujet qui m'est imposé par Monsieur le Président Bruno Cotte, la petite et moyenne délinquance, incompréhension ou méconnaissance, le regard d'un procureur, pose sans alternative, semble-t-il, le constat d'un échec. L'action des magistrats du ministère public contre la délinquance, soit le cœur de leur métier et du mien, étant condamnée soit à être ignorée dans sa nature et sa mise en œuvre, soit à faire des connaisseurs de cette action des contempteurs de l'institution. S'il me coûte et me désole, je sais le constat fondé. Je mesure en effet parfaitement, comme l'ensemble de mes pairs que j'ai eu l'honneur de représenter lorsque je présidais leur conférence nationale, combien l'action de la justice pénale en général, celle des procureurs en particulier, pourtant désormais au cœur de l'agitation médiatique quotidienne, sont source de nombreuses interrogations, souvent critiques, quand elles ne nourrissent pas des fantasmes par nature excessifs, qu'il s'agisse souvent de dénoncer leur laxisme supposé ou avéré, ou plus rarement, par les temps qui courent, de pourfendre leur caractère excessivement et injustement répressif. Le constat est d'autant plus dramatique que s'il est bien certain que le magistrat qui se respecte doit s'évertuer de se détacher du « qu'en dira-t-on », l'institution judiciaire et celles et ceux qui la servent ne peuvent faire l'économie de se souvenir qu'ils rendent la justice au nom du peuple et de s'inquiéter de l'ampleur du déficit de confiance dont ils sont l'objet aujourd'hui. Mon défi de ce jour est donc, à la place qui est la mienne, de tenter de combler un peu la méconnaissance tout en espérant, ce faisant, susciter non l'adhésion, mais au moins la compréhension éclairée. Avant d'y procéder, je voudrais, comme il se doit, préciser un peu les termes du sujet. La notion de petite et moyenne délinquance ne correspond pas, d'une manière qui serait indiscutable, à une catégorie précise d'infraction. Je ne vais pas pour autant disserter sur cette définition, mais parce que la demande qui m'a été faite est de vous faire apercevoir le quotidien qui est le mien, je ne saurais trop insister sur le fait qu'en ne vous parlant que de ce que, finalement, on désigne sous le vocable de délinquance du quotidien, je ne vous dirai pas tout de l'activité journalière d'un parquet. Ainsi ne vous dirai-je rien de nos attributions en matière civile, commerciale ou encore administrative. Qui sait en effet que le champ de compétences d'un procureur s'étend de l'adoption à la police funéraire, en passant par les procédures collectives devant les tribunaux de commerce. Pour rendre la chose plus concrète, permettez-moi un instant un discours un peu technocratique. Tout cela, ce que nous appelons communément le parquet civil et commercial et les tâches administratives, consomme, si l'on peut dire, environ 30% des effectifs de mon parquet, qui compte 20 magistrats, ce qui le situe au 15e rang national sur un total de 169 parquets, en ce compris les parquets nationaux financiers et antiterroristes et les parquets dits de première instance en Nouvelle-Calédonie et Tahiti. La définition du périmètre de mon propos suppose encore, pour prévenir les redondances et faire une juste utilisation de mon temps, que je n'évoque pas les sujets dont d'autres que moi vous entretiendront dans les semaines à venir, qu'il s'agisse notamment de la justice criminelle ou de la grande délinquance économique et financière, mission auxquelles je dois dédier 6 à 7% des ressources de mon parquet. C'est dire que mon propos, s'il s'efforcera de répondre à la demande qui m'a été faite, ne rendra pas justice au travail quotidien de l'ensemble des équipes de magistrats qui font vivre les parquets de la République. Pour autant, il tentera de montrer les contraintes multiples qui s'attachent à l'exercice des fonctions pénales ordinaires des magistrats du parquet et qui concourent largement, me semble-t-il, à alimenter cette incompréhension dont nous sommes l'objet. Il cherchera aussi à illustrer la conviction forte qui est la mienne, à savoir que notre justice pénale du quotidien s'attache trop à une obsession principalement gestionnaire, celle des flux et des stocks de procédures, en méconnaissant trop souvent et dangereusement l'indispensable gestion du risque. J'entends par là celui de la récidive ou de la réitération. Ainsi, après avoir dressé un très rapide panorama des parquets de première instance, je consacrerai mon propos d'abord à évoquer l'action du ministère public dans un développement que j'ai intitulé « De la logique du flux au défi du risque ». Avant de m'intéresser aux relations des parquets avec ses interlocuteurs et partenaires, sous le titre « Le défi de la proximité, la préservation de l'autorité ». Cet exposé, principalement dédié à notre savoir-faire, se conclura par l'énoncé de quelques convictions sur notre savoir-être. Rapide panorama des parquets de première instance. Les parquets de première instance, par opposition aux parquets généraux au sein des cours d'appel, comptent à ce jour 1720 postes, dont 100 d'entre eux étaient vacants au 1er septembre dernier. En 2027, si l'institution judiciaire parvient à pouvoir les 1500 postes de magistrats créé par l'actuel gouvernement à l'issue des États généraux de la justice, le ministère public, dans son ensemble, sera fort de 284 magistrats supplémentaires à répartir entre les 169 parquets, les 36 parquets généraux et le parquet général de la Cour de cassation. Que l'on ne se méprenne pas sur le sens de mon propos. Il ne s'agit surtout pas pour moi de jouer la complainte de la misère de la justice à l'heure où la nation consent un investissement sans précédent. Il s'agit plus sûrement de traiter mon sujet, et ce, à deux égards. D'une part, car dessiner mon quotidien, j'y reviendrai, c'est d'abord et avant tout évoquer l'obsession gestionnaire qui est celle de tous les procureurs. Gérer des stocks et des flux de procédures et le faire avec, indiscutablement, je crois, des effectifs aujourd'hui très contraints, en 2027, des effectifs un peu moins contraints. D'autre part, car au regard de l'incompréhension posée en postulat dans mon sujet d'aujourd'hui, il me paraît indispensable, pour empêcher qu'elle ne s'accroisse, de dire les choses telles qu'elles sont. Si l'investissement de la nation permettra assurément que les choses aillent mieux pour l'institution que je sers, ce ne sera pas pour autant la révolution. Ce le sera d'autant moins que l'on peut craindre que les missions ne cessent de croître, là où il était d'abord question, dans les États généraux de la justice, de réparer ce qui devait l'être pour faire face à l'existant. Pour parler plus concrètement, examinons brièvement le cas de mon parquet. 20 magistrats à l'effectif théorique, vous ai-je dit. En 2027, de ce que l'on m'a laissé entendre, possiblement 22 ou 23, soit une augmentation de 10 à 15%, ce qui est substantiel au regard de l'endettement public de notre pays. On ne saurait en disconvenir. Pour autant, si on rapporte cela aux besoins de justice, on ne manquera pas d'observer qu'à ce jour, mes effectifs représentent 2,7 parquetiers pour 100 000 habitants, ce qui est conforme à la moyenne nationale. En 2027, à population constante, ce qui est peu probable en Seine-et-Marne, cela représenterait 3,1 parquetiers pour 100 000 habitants. Or, si l'on compare la situation de notre pays, et de mon ressort, à celle qui prévaut au sein de nos États partenaires que sont les membres du Conseil de l'Europe, on se fera une juste idée du défi quotidien auquel doivent faire face les parquetiers français. Songeons en effet que les travaux de la Commission pour l'évaluation des systèmes judiciaires au sein des 47 États membres nous apprennent que la moyenne de parquetiers pour 100 000 habitants, y compris en cour d'appel, est de 11,8, ce qui, pour un ressort comme celui de Meaux, représenterait une soixantaine de magistrats. Et je m'empresse de préciser, pour pareil une éventuelle objection, que ces mêmes travaux de comparaison montrent que les parquetiers français sont, parmi les grands pays, ceux qui sont appelés à répondre au plus grand nombre de missions différentes et confrontés à l'un des ratios les plus élevés s'agissant du nombre de procédures par magistrat. Le panorama ayant été dressé, j'en viens à nos missions. L'action du ministère public, de la logique de flux au défi du risque. La justice, en tant qu'autorité constitutionnelle, est souvent la cible de deux griefs principaux, dont je suis bien certain qu'ils sont à l'origine de la formulation du sujet qui m'a été confié. Son incapacité à gérer la délinquance et à le faire dans un délai raisonnable d'une part, son insuffisante sévérité d'autre part. Je pense toutefois qu'en interrogeant l'institution judiciaire sous ses seuls angles et en lui assignant de facto, si ce n'est des jurés, la mission première de gérer des flux, on passe largement à côté de l'impératif majeur que constitue la prévention du risque, celui de la récidive ou de la réitération. Le défi gestionnaire. Traiter judiciairement la délinquance suppose que soit apportée une réponse pénale, l'expression est largement consacrée par la pratique, aux contraventions, crimes et délits. Le résultat attendu est-il là ? Chacun jugera. En 2022, les parquets ont traité 4,1 millions d'affaires pénales. Le chiffre est indiscutablement impressionnant, mais il convient de le nuancer dans la mesure où 56% de ces affaires ont été classées sans suite en raison de l'absence d'élucidation des faits. Pour autant, il est donc demeuré 1,7 million de procédures à traiter par les magistrats du parquet. Qu'entend-on par là ? À l'alternative binaire qui s'offrait initialement aux parquetiers dans l'exercice de l'opportunité des poursuites et qui se résumait au choix de classer sans suite ou de saisir la juridiction de jugement, s'est substitué depuis plusieurs années un exercice beaucoup plus complexe de choix de réponse au sein d'un éventail de mesures allant du classement sans suite sec, comme nous disons entre nous, ce qui est fait dans en moyenne 15% des cas, en passant par la mise en œuvre d'une mesure alternative, c'est-à-dire d'une réponse pénale qui, précisément, n'est ni un classement sans suite, ni une poursuite pouvant aboutir à une condamnation, et qui, jusqu'à un passé finalement assez récent, n'avait d'autre base légale que l'inventivité des procureurs. En cette matière, les mesures alternatives, ou troisième voie, dit-on, matière qui représente 35% des cas, le champ des possibles s'est considérablement élargi. Avertissement pénal probatoire, le nouveau nom du rappel à la loi, classement sous condition d'indemnisation de la victime ou de régularisation au regard de la norme violée, médiation pénale, réparation pénale, contribution citoyenne, composition pénale ou encore réalisation aux frais de la personne d'un stage de formation. S'il décide au contraire de poursuivre celui ou celle qu'il pense être l'auteur de l'infraction, le magistrat du parquet dispose là encore d'un très grand nombre de solutions. L'une des plus célèbres, celle qui consiste à confier le devenir de l'enquête à un juge indépendant qu'est le juge d'instruction, est en réalité la plus numériquement confidentielle, puisqu'elle n'est utilisée que dans 2,8% des cas. Il est exact, par contre, que cette voie est réservée aux affaires les plus graves, notamment en ce qu'elle est procéduralement obligatoire en matière criminelle. À côté de cette voie destinée à prolonger au moyen d'une information judiciaire une enquête initialement de flagrance ou préliminaire, le parquet peut faire le choix de saisir une juridiction de jugement. Les options qui s'offrent à lui sont alors très nombreuses, depuis la poursuite au moyen d'une procédure dite d'ordonnance pénale, dans laquelle le juge, dont le pouvoir de sanction est alors limité, statuera uniquement au vu de la procédure, jusqu'à la comparution immédiate qui permettra une comparaison sous 3 jours ouvrables, en passant par les procédures avec ou sans placement sous contrôle judiciaire préalable. C'est au final plus de 25 types de réponses pénales différentes que peut mobiliser un magistrat du ministère public, décidé à apporter une réponse pénale à une ou des infractions. Je crois donc pouvoir dire qu'à rebours d'une idée largement reçue, les parquets ont su, depuis plusieurs décennies désormais, faire preuve d'inventivité et de créativité pour augmenter le volume des réponses pénales sans aggraver un encombrement déjà chronique des juridictions de jugement. Du temps à maîtriser. La critique qui porte sur la lenteur de la justice, si elle est largement répandue, et j'en conviens aisément, si elle est tout à fait fondée, lorsque l'on s'intéresse exclusivement aux grandes affaires oblématiques et dont les délais de jugement font parfois le déshonneur de l'institution, cette critique me paraît devoir être singulièrement nuancée si l'on se concentre sur le champ qui est le mien aujourd'hui, la petite et moyenne délinquance. Sur ce point, en effet, force est de constater qu'il existe un fossé entre la réalité telle que nous, gens de justice, tentons de la forger, et la perception qu'en ont nos concitoyens. Alors que l'action de la justice pénale est souvent perçue comme lente et inadaptée au rythme effréné de la vie sociale contemporaine, les procureurs de la République sont en réalité habités par une obsession permanente. Une obsession que je qualifierais de gestionnaire, gérer les stocks et écouler les flux pour tenir, comme nous le veut notre jargon, tenir les délais de traitement. Or, pour l'essentiel, l'organisation actuelle des parquets est pensée autour de ce double impératif quantitatif et calendaire, pour traiter le plus grand nombre de procédures et le faire dans les délais les plus courts possibles. Les parquets français sont tous structurés autour de ce que nous appelons, selon les juridictions, la permanence ou le TTR pour traitement en temps réel ou encore le STD pour service de traitement direct. À ces services, nous consacrons une part importante de nos effectifs pour, au moyen de comptes-rendus téléphoniques ou par courriel, diriger les enquêtes, répondre aux interrogations des enquêteurs et donner des instructions, orienter les procédures en décidant ou non de mettre en œuvre l'action publique et choisir la réponse pénale au sein d'un vaste éventail. Là où cette organisation avait été initialement pensée pour traiter les gardes à vue et les flagrants délits, elle est désormais un passage obligé pour le traitement et l'orientation par le parquet de la majeure partie des procédures, toutes gravités confondues. Dans un parquet tel que celui de Meaux, c'est en moyenne quotidienne plus de 20 gardes à vue, 150 procédures traitées par courriel, 110 appels téléphoniques, le tout à la charge de 2 magistrats, auxquels il faut ajouter un 3e, chargé des déferments, en moyenne 8 par jour, avec régulièrement des pointes à 15 ou 16. Un déferment, c'est-à-dire la mise en œuvre de réponses immédiates à l'encontre d'auteurs d'infractions qui, à raison de la gravité des faits et ou de leurs antécédents judiciaires, sont amenés au tribunal par les policiers ou les gendarmes au sortir de la garde à vue, sans remise en liberté préalable. Ces services, qui existent dans tous les parquets, sont de véritables gardes de triage. Toute la délinquance y passe, à l'exception des procédures de très grande complexité, qui naturellement sont davantage traitées dans le cadre d'entretiens plus longs entre le parquet et les enquêteurs. Mais de la contravention routière à l'homicide volontaire, toutes les procédures passent, au moins de manière ponctuelle, par la permanence. et l'écrasante majorité d'entre elles sont définitivement orientées par ce service après un courriel ou un appel téléphonique. Si je mesure parfaitement que l'organisation que je viens de vous décrire sommairement n'est pas parvenue à faire taire les critiques sur le temps judiciaire, il n'en demeure pas moins qu'elle a contribué depuis plusieurs décennies à réduire drastiquement le temps de traitement de l'essentiel des procédures judiciaires par les parquets. C'est d'ailleurs tellement vrai que l'un des défis pour un chef de parquet comme votre serviteur est de parvenir à dégager des marges de manœuvre pour que ce « tout ETR », comme nous disons parfois entre nous, ne consomme pas toutes les ressources de l'équipe et n'empêche pas les magistrats de se dédier à leurs autres missions, dont l'accomplissement des tâches les plus chronophages et l'analyse des cas les plus complexes. Pour autant, l'activité de mon parquet me paraît apporter la preuve que de telles méthodes de travail permettent de resserrer le temps judiciaire, puisque l'année dernière, 2023, plus de 46% des personnes poursuivies par mon parquet l'ont été dans le cadre d'un déferrement, c'est-à-dire en étant présentées au tribunal dès la fin de leur garde à vue, le jugement au fond intervenant ensuite, selon la procédure choisie, dans un délai de 1 jour à 4 mois en moyenne. Des principes d'action à préserver. Sans doute l'aurez-vous perçu, un parquet est une institution sous tension permanente. Naturellement, les affaires ne se valent pas toutes, et s'il est vrai que notre quotidien est aussi fait de procédures simples, il n'en demeure pas moins que le constat qui s'impose à moi est celui d'un accroissement très soutenu des affaires de violence, sous toutes les acceptions du mot, affaires dont le traitement judiciaire s'avère complexe et source de tension. Dans un climat de salvatrice mais incomplète prise de conscience de l'impérieuse nécessité de dénoncer davantage les violences faites aux femmes et aux enfants, les magistrats des parquets sont confrontés à une vague sans précédent et qui ne cesse de croître, de plaintes et de signalements pour des violences au sein des couples, des maltraitances envers les enfants, pour des viols et des agressions sexuelles, pour des faits de proxénétisme et de prostitution de mineurs, pour des harcèlements scolaires, et ce, sans compter les violences de bande se traduisant souvent par des rixes, des enlèvements et des séquestrations. Dans toutes ces affaires, l'office des magistrats du parquet, et notamment des plus jeunes qui peuplent nos permanences et autres TTR, et de gérer les enquêtes et d'exercer l'action publique, non seulement en prenant en compte les enjeux que j'ai précédemment évoqués, mais aussi, bien naturellement, en défendant les principes du droit et ce faisant en résistant à l'ère du temps. Ne nous y trompons pas, en effet. On examine souvent la question de l'indépendance de la justice à l'aune d'un possible interventionnisme politique. Mais ma conviction profonde est que l'un des devoirs du procureur que je suis est de rappeler sans cesse mes jeunes collègues, par ailleurs totalement dévoué et engagé, à l'impérieuse nécessité de cultiver une indépendance face à l'ère du temps. Certes, il nous faut traiter la masse. Certes, il nous faut accueillir, écouter et accompagner les victimes. Certes, il nous faut agir vite pour éviter que les faits ne perdurent, que les témoins ou les victimes ne soient l'objet de pression, que le « qu'en dira-t-on » ne rende sa sentence avant celle du juge. Mais nous n'en devons pas moins enquêter à charge et à décharge. Nous assurer de la proportionnalité des moyens d'enquête, être exigeant sur l'administration de la preuve, n'oublier jamais que dans la course à la manifestation de la vérité, c'est le mis en cause présumé innocent qui a une longueur d'avance et qu'il la conservera aussi longtemps que nous ne parviendrons pas à la renverser. Ce sont des enjeux majeurs, car il ne faut pas se leurrer. Les magistrats entendent les critiques et ont souvent à cœur, non pas de les faire taire, mais de les faire mentir. L'art et la manière de tenter d'y parvenir passent par une rigueur accrue dans l'examen des procédures, une écoute de la contradiction, une ouverture d'esprit à ce qui est plausible dans les arguments de celui ou de celle qui est mise en cause, et surtout par une réflexion collective permanente. C'est, je crois, un aspect très important de la mission d'un procureur, tenir ses collègues éveillés et attentifs à ses exigences, et animer quotidiennement des échanges collectifs, non pas seulement selon un mode vertical et hiérarchique, mais en offrant à chacun un espace d'expression. D'où l'importance pour le procureur que je suis, même à la tête d'une équipe de 20 magistrats, d'essayer d'être en permanence au plus près du terrain et à l'écoute de ses collègues. Un bureau de procureur, ce doit être une sorte d'auberge espagnole, à la porte toujours ouverte. Du faux débat sur le laxisme judiciaire au vrai questionnement sur l'efficacité préventive. Je ne résiste pas à la tentation de débuter mon propos sur ce sujet en citant Jacques Faizan, l'historique dessinateur du Figaro, exercice qui m'obligera donc à décrire plutôt qu'à lire. Dans un dessin dont j'ignore la date de publication, Jacques Faizan avait réalisé une frise composée de 6 scénettes représentant un juge aux prises tantôt avec un homme jeune, tantôt un homme plus âgé et paraissant plus installé dans la vie, ou encore un médecin, un ouvrier ou un policier. Mais l'essentiel du message résidait naturellement dans les propos adressés par chaque protagoniste au même juge, traité successivement de tortionnaire sadique, d'ordure fasciste ou plus modestement de juge de droite, avant de se voir reprocher au contraire d'être un juge de gauche faisant preuve d'une indulgence coupable. Un beau croquis valant mieux qu'un long discours, tout est dit du caractère éminemment relatif du grief sur le laxisme de la justice. Si la démonstration, si l'on peut dire, peut être jugée un peu expéditive, je pense néanmoins qu'elle est assez stérile, puisque sans fin et sans réponse autrement que subjective et partisane, le débat sur le laxisme réel ou supposé de la justice. Au contraire de la question sans fin de la pertinence de la répression, le débat sur l'efficacité de la justice, au regard de l'objectif préventif que lui assigne la loi, me paraît devoir être ouvert. Comment ne pas l'accepter lorsqu'on lit, dans une étude officielle publiée par la Chancellerie en 2023, que plus de la moitié des sortants de prison, 54%, la moitié des 54% des sortants de prison en 2016 avaient commis une nouvelle infraction dans les 3 ans. Ce nécessaire questionnement, je puis vous l'assurer, constitue bien une préoccupation constante pour le magistrat du parquet, animé de l'ambition de trouver la réponse pénale qui produise l'effet escompté. C'est donc bien la question des critères qui président à nos décisions qui est posée. Le premier est celui du but recherché, autrement dit la mesure ou la peine effective et concrète, qui va non seulement permettre de punir, mais aussi permettre de prévenir la récidive ou la réitération. Le second critère est celui de parvenir à ce résultat final escompté dans un délai le plus raisonnable possible. Non qu'il s'agisse de souhaiter la généralisation de la comparution immédiate, mais parce que s'il est un point qui fait l'unanimité, c'est que si toutes les situations n'ont pas à gagner à être jugées quelques jours après la commission des faits, peu n'ont pas beaucoup à perdre à n'être jugées que de trop nombreuses mois ou années après la commission des faits. Or, face à une justice pénale dont les capacités de jugement et de traitement sont sollicitées à plein et ne permettent pas, en tout état de cause, que la totalité des procédures qui méritent une réponse pénale soit soumise au regard d'un juge, la réalité quotidienne est bien souvent celle de la primauté du critère second, le temps de la réponse pénale, sur le critère premier, la nature concrète et effective de la peine ou de la sanction recherchée. Permettez-moi d'être plus concret. Au sein du tribunal judiciaire de Meaux, en 2023, nous sommes parvenus à limiter nos délais d'audiencement correctionnel à 5 mois en moyenne. Le délai d'audiencement s'entend du temps qui s'écoule entre le jour où le parquet décide de délivrer un acte de poursuite contre une personne et le jour de l'audience. Un tel délai de 5 mois est, je crois pouvoir le dire en toute objectivité, considéré par les professionnels comme très raisonnable. Mais la vérité oblige à dire que si nous nous tenons un tel délai moyen, c'est aussi parce que j'interdis, purement et simplement, à mes parquetiers de délivrer des convocations devant le tribunal à plus de 6 mois. Les audiences qui dépassent ce délai ne sont tout simplement pas accessibles sur le logiciel informatique que nous utilisons. Cette exigence contraint donc régulièrement mes substituts à chercher d'autres voies procédurales que celles qui leur paraîtraient spontanément la meilleure pour atteindre l'objectif premier d'une réponse pénale voulue, non pour la procédure qui permet d'y aboutir, mais pour sa nature propre. De même, afin de résoudre ce qui était l'un des fléaux de la juridiction, à savoir les audiences tardives, j'entends par là des audiences qui, ayant commencé à 13h15, ne finissaient jamais avant minuit. La capacité de traitement des comparutions immédiates a été fixée d'un commun accord avec les juges du siège à 3 audiences hebdomadaires d'une durée théorique conforme à la circulaire, laquelle durée est très régulièrement outrageusement dépassée de 6h. Toutefois, à raison des renvois qui en cette matière sont obligatoires si le prévenu le demande pour un délai pour préparer sa défense, il n'est pas rare que certaines semaines, mon parquet voit sa capacité à poursuivre en comparution immédiate limitée à 3 ou 4 personnes. On voit ainsi comment l'obsession d'obtenir une décision, et d'y parvenir en tenant les délais, pour reprendre une expression consacrée par la pratique, influe au premier chef sur le choix de la réponse pénale qui est au cœur de l'action du parquet. On voit aussi les limites d'un tel système dans lequel le moyen, le choix d'une réponse pénale plutôt que d'une autre, tend à primer sur le résultat final recherché, à savoir, je l'ai dit, la sanction ou la peine effective qui alliera juste sanction et vertu préventive. À ce stade de mon propos, je conviens que la question reste posée, Que nous manque-t-il donc pour parvenir à plus d'efficacité dans la mission de prévention de la récidive ? Ma conviction est que notre manque réside dans le déficit d'évaluation criminologique qu'accompagne l'exercice quotidien de l'action publique. La réalité du quotidien du magistrat du parquet affecté dans l'un de ces TTR, dont je vous dressais le portrait tout à l'heure, c'est qu'il ne dispose d'aucune réelle évaluation ou même d'une estimation du risque criminologique que représente tel ou tel justiciable, et plus encore des besoins criminologiques qui sont les siens. Certes, de plus en plus souvent, les procédures comportent l'appréciation d'un psychiatre ou d'un psychologue, mais ça ne peut pas jeter le discrédit sur ces professionnels que d'affirmer non seulement que l'écrasante majorité d'entre eux n'est pas formée à l'évaluation du risque criminologique, mais plus encore que la conception même de leur intervention est largement étrangère à l'ambition de réaliser une telle évaluation. L'appréhension de l'importance des facteurs criminogènes de la personnalité ou de l'environnement de la personne va en effet au-delà de la seule évaluation de ses traits psychiatriques ou de son évaluation psychologique. La solution ne réside pas davantage dans les enquêtes de personnalité dont le code de procédure pénale impose la réalisation dans de nombreuses procédures, mais qui le plus souvent se présentent sous la forme de questionnaires de personnalité des plus sommaires. Ce problème du déficit dans l'identification et l'évaluation des besoins criminologiques du justiciable, tantôt prévenu ou accusé, tantôt condamné, ne se pose pas moins, bien au contraire, au stade de l'exécution et de l'application de la peine. Mais je ne fais qu'effleurer le sujet, car d'autres que moi auront pour tâche d'y consacrer leurs propos. Je souhaite pourtant vous faire part de ma perplexité face au constat qui s'impose. Celui de normes législatives qui, aujourd'hui comme hier, revendiquent le postulat de peine, tantôt automatique ou plancher, tantôt aménagé de plein droit, avec le seul objectif, avoué, à défaut d'être revendiqué, de recourir davantage à l'incarcération, ou au contraire de lutter contre un surpeuplement carcéral devenu endémique. Or, quelle que soit l'option retenue, au terme d'opinions par ailleurs respectables, on me paraît passer à côté du sujet majeur, encore et toujours, vous m'aurez compris, celui de l'évaluation du danger et des besoins criminologiques du condamné. Dit autrement, notre justice me paraît souffrir gravement d'une sous-culture criminologique. Fort de ce constat, depuis près de 10 ans maintenant, des procureurs de la République, pas seulement mais principalement, déploient, comme je le fais moi-même, des dispositifs expérimentaux s'inspirant du modèle anglo-saxon des juridictions dites « résolutives de problèmes ». L'enjeu de ces pratiques est d'améliorer la prévention de la récidive de la part de personnes dont la délinquance est en lien à un titre ou à un autre avec une addiction à l'alcool ou aux stupéfiants. La démarche tend à se concentrer sur l'évaluation des besoins criminologiques de la personne et sur le moyen d'y répondre de façon à parvenir à une décision judiciaire qui, au-delà de la juste répression, permette un résultat efficient dans la prévention de la réitération. La méthode repose sur un processus collaboratif préalable à la prise de décision, sur un principe de responsabilisation des personnes suivies qui sont amenées à rendre des comptes sur leur comportement et plus particulièrement leur addiction, et aussi sur une supervision judiciaire bienveillante, je n'ai pas peur des mots, mais cohérente et crédible du traitement et de la réhabilitation. Il me paraît impératif que la logique qui préside à ces solutions irrigue davantage les méthodes d'intervention et de prise en charge des auteurs d'infractions, notamment dans le domaine de la probation, c'est-à-dire l'exécution des peines en milieu ouvert. Le ministère public, ses interlocuteurs et ses partenaires, titre que j'ai sous-titré « Le défi de la proximité, la préservation de l'autorité ». Si je pense volontiers que mes aînés avaient pour référentiel principal la loi, au sens le plus large du terme, et étaient revêtus de facto de l'autorité qui sied à celui ou celle qui doit incarner l'intérêt général, j'ai souvent le sentiment pour ma part d'être tenu de répondre, en plus, à l'exigence d'une contractualisation permanente, et à me comporter non comme une autorité, ou en tout cas pas au premier chef, mais comme un partenaire. L'expression largement consacrée par la pratique de « chaîne pénale », utilisée pour décrire le passage d'une procédure, le passage de relais d'une institution à une autre que constitue toute procédure, dit bien, en ce qu'elle tend à estomper toute logique pyramidale, voire simplement verticale, toute l'ambiguïté des réalités de terrain qui ont parfois tendance à s'éloigner des textes. Cette ambiguïté me paraît souvent présider aux différentes relations auxquelles doit se consacrer un procureur, avec la police et la gendarmerie d'une part, les autres administrations et les élus d'autre part, ou les médias enfin. Les relations parquet-enquêteurs, l'asymétrie à géométrie variable. Les textes sont dépourvus de toute ambiguïté. Selon le Code de procédure pénale, le procureur de la République dirige la police judiciaire, c'est-à-dire, plus précisément, l'action des forces de sécurité intérieure dans l'accomplissement de leur mission de police judiciaire. À ce titre, je peux donner des instructions, générales ou individuelles, aux agents et officiers de police judiciaire, et je suis tenu d'évaluer et de noter ces derniers. C'est en cela que la relation parquet-enquêteur me paraît pouvoir être qualifiée d'asymétrique, non pas naturellement en considération de la dignité qui serait relative de chaque fonction, mais bien parce que l'un, le policier ou le gendarme, doit rendre des comptes à l'autre, le magistrat, et que l'inverse n'est pas vrai. Quand bien même, je ne cesse d'enseigner à mes parquetiers qu'ils doivent se faire les pédagogues de leurs décisions auprès des policiers et des gendarmes, car aujourd'hui, c'est bien connu, l'autorité se conquiert bien plus qu'elle ne se décrète. Pour autant, mon pouvoir de direction, bien que réel, n'est que partiel. La première limite, et elle est de taille, est que mon autorité est exposée à la concurrence et qu'elle ne m'autorise pas à me prononcer sur l'affectation des moyens à la mission. Aux deux grandes missions que la loi confie à nos forces de sécurité intérieure, la police administrative d'une part, la police judiciaire d'autre part, correspondent deux autorités distinctes, incarnées par le préfet et le procureur. Il n'est pas nécessaire d'imaginer d'hypothétiques situations de tension ou d'incompréhension entre ces deux institutions pour comprendre comment il peut arriver parfois que les priorités de l'un trouvent leurs limites dans celles de l'autre. Les impératifs d'ordre public, la gestion d'un événement sportif ou le déploiement d'un plan départemental en tricambriolage, par exemple, ont bien souvent des effets sur la capacité des forces de l'ordre à remplir leur mission de police judiciaire. Cet impératif pour un procureur de prendre en compte les autres exigences auxquelles doivent satisfaire les services enquêteurs est d'autant plus incontournable que la loi ne lui confère aucune prérogative lorsqu'il s'agit d'affecter les moyens aux missions qu'il définit. En clair, s'il a la possibilité de choisir tel service enquêteur plutôt que tel autre, un procureur ne peut, à aucun titre, décider la part des effectifs d'un commissariat de police consacré à la mission investigation. Cette réalité s'impose encore plus fortement au procureur lorsqu'il s'agit de lutter contre la délinquance dite de grande complexité, en matière fiscale, économique et financière notamment. En ces matières, en effet, les ressources disponibles en enquêteurs spécialisés sont très limitées, voire parfois inexistantes, même à 50 km de Paris. Si je considère la chose difficilement imaginable pour un néophyte, la vérité oblige à dire que les cas dans lesquels je suis en difficulté pour identifier un service enquêteur disponible et susceptible de prendre en compte telle plainte de l'administration fiscale ou de Tracfin ou d'un maire dans un délai qui ne se compte pas en années ne sont pas des cas si rares que cela. Au-delà même de la question des contentieux spécialisés, c'est la capacité de faire face à la délinquance dite du tout venant qui est parfois compromise. La presse nationale s'est ainsi fait l'écho du travail mené conjointement par les corps d'inspection des places Beauvau et Vendôme, révélant que les services de police, et je crois, monsieur le sénateur, que vous l'avez évoqué la semaine dernière, ont un stock de 2,7 millions d'enquêtes préliminaires pour 3,5 millions de faits constatés en 2022. Ainsi, le constat s'impose-t-il à moi, d'enquêteur investi et soucieux de bien faire, mais qui, confronté à des murs de procédures, voit souvent leur activité de plus en plus cantonnée au traitement des infractions flagrantes et ou au seul délit dit de voie publique. Enfin, dernière illustration de ce rapide inventaire du caractère finalement très relatif du pouvoir de direction de la police judiciaire par le parquet, la réalité d'un quotidien dans lequel les magistrats, bien loin de pouvoir se cantonner à une fonction de superviseur et de censeur de procédures établies par d'autres, doivent au contraire s'investir dans le détail des investigations, souvent pour obtenir d'enquêteurs jeunes, rapidement formés, parfois peu motivés par la matière, des investigations efficientes et conformes aux exigences d'une procédure pénale qui, au fil des ans et des réformes, donne désormais largement la priorité à la forme sur le fond. Le parquet et ses interlocuteurs publics, l'efficience à l'épreuve des partenariats. La judiciarisation croissante de la société est un fait que je tiens pour suffisamment acquis pour ne pas avoir à la démontrer. Le phénomène s'illustre par contre aisément quand on se penche sur la question des relations entre les procureurs de la République et leurs autres interlocuteurs publics que sont les administrations et les élus. Porte ouverte de et sur l'institution judiciaire, chargée de la représenter dans la cité, le procureur est l'objet de toutes les attentions et désormais il n'est pas une administration, pas une institution publique qui ne demande un accès privilégié à son procureur de la République. Rares sont les politiques publiques comportant, de près ou de loin, une dimension judiciaire qui ne se traduisent par le diptyque « un protocole », ce que j'appelle donc la contractualisation permanente, et un magistrat référent. La bibliothèque numérique des protocoles et conventions de mon parquet, au terme desquels il s'est engagé au fil du temps à animer tel comité de suivi, à prendre part à telle commission de coordination, à mettre en place une adresse mail dédiée pour faciliter sa saisine en temps réel, comporte plus de 200 fichiers informatiques, sans même que je puisse être certain que l'inventaire ait été rigoureusement tenu au fil du temps, et sans compter le fait que certaines d'entre elles se déclinent commune par commune ou intercommunalité par intercommunalité. Relations avec le conseil départemental ou les villes, avec les administrations d'État, le monde médical, les ordres professionnels, les bailleurs sociaux, les transporteurs publics, les services départementaux d'incendie et de secours, les URSSAF, les caisses d'allocation familiale, les fédérations sportives, le monde associatif. La liste des partenaires du parquet semble sans fin, tout comme celle des sujets traités. Vous vous en doutez aisément, le défi, très souvent perdu, je le vous confesse sans vergogne, n'est évidemment pas tant de conclure conventions et protocoles que leur donner corps, tenir ce comité de pilotage annuel ou semestriel toujours prévu dans les textes mais si rarement effectif dans les pratiques, dégager du temps à ce magistrat référent censé acquérir du sujet ou de la matière une connaissance fine à la fois théorique et concrète en lien avec les réalités du ressort. Si cette tendance à la protocolisation de nos politiques pénales me paraît avoir une ancienneté qui commanderait d'entrer dans une phase de bilan, nos relations avec les élus, les maires au premier chef, me paraissent avoir connu une heureuse renaissance de manière plus récente, notamment à l'instigation en 2021 de l'actuel garde des Sceaux. Certes, dès avant cette époque, les parquetiers prenaient toute leur part dans les instances dites partenariales, dédiées à la prévention de la délinquance, que sont les contrats locaux de sécurité et de prévention de la délinquance. Certes aussi, les procureurs avaient créé d'initiative des structures plus réduites et plus agiles, dénommées groupes locaux de traitement de la délinquance. Mais j'ai le sentiment que la volonté d'inscrire vraiment le procureur dans l'environnement institutionnel immédiat de l'élu est une réalité qui n'a que quelques années. Cette évolution était indispensable. Les pouvoirs des maires en matière de police et de prévention de la délinquance ont été considérablement accrus ces dernières années. Dans bien des territoires, et Meaux ne fait pas exception à la règle, bien au contraire, les polices municipales sont devenues des acteurs majeurs de la sécurité. Pour l'institution que je sers, l'enjeu est de rester en lien direct avec le terrain, de disposer, pardon de le dire ainsi, de capteurs différents et complémentaires des relais policiers ou gendarmesques habituels, et surtout de faire la pédagogie de son action auprès des premiers représentants du peuple souverain. Alors certes, aujourd'hui, chacun des 243 maires de mon ressort ne me connaît pas personnellement, mais les liens institutionnels ont été considérablement renforcés. Tous ont été destinataires lors de ma prise de fonction, d'un courrier de présentation et de mon curriculum vitae. Tous ont été invités en avril dernier à une demi-journée de formation organisée par mon parquet à leur attention. Tous savent pouvoir utiliser, pour me contacter, une adresse électronique qui leur est réservée. Quant aux médias, procureurs et médias, un monopole de façade. À en croire l'article 11 du Code de procédure pénale, de toutes les autorités publiques, seul le procureur en charge d'une procédure est légitime à porter à la connaissance du public des informations relatives à celle-ci, à tout le moins pour son volet judiciaire. Il suffit de fréquenter les médias les plus férus de faits divers pour mesurer l'écart entre la norme et la pratique. Pour autant, je crois que l'expression du procureur demeure revêtue d'une autorité particulière. N'exprimant que mon seul point de vue toutefois, j'avoue avoir du mal à ne pas confesser, vivre la sollicitation médiatique dans ma pratique professionnelle, d'abord et avant tout comme une contrainte. Il me faut en effet pas se mentir, toute affaire qui acquiert, quelle qu'en soit la raison, une dimension médiatique, va demander au procureur de la République du temps supplémentaire, une vigilance renforcée et une patience décuplée. Les règles du jeu médiatique ne sont en effet pas toujours simples à appréhender. S'il est aisé d'identifier les affaires dans lesquelles on s'attend dès le départ à devoir gérer cet aspect-là, il m'arrive encore régulièrement d'être étonné par l'intérêt journalistique pour telle ou telle affaire de basse intensité. De même, la vitesse à laquelle les médias peuvent acquérir la connaissance de faits ou d'une procédure est un paramètre complexe à appréhender, car la diffusion trop rapide de certaines informations peut indubitablement nuire à la manifestation de la vérité. Est aussi particulièrement pénible pour moi, parce que très chronophage, l'exigence des médias d'obtenir leur son ou leur image afin de ne pas avoir à citer un concurrent ni même une agence de presse pourtant autorisée. Aujourd'hui, dans un ressort comme le mien, sans moyens humains dédiés, la gestion des sollicitations journalistiques est quasi quotidienne. La rédaction de communiqués de presse presque hebdomadaire, et le recours à une conférence de presse pour satisfaire tout le monde sans avoir à se répéter, un exercice qui tend largement à se banaliser. Si l'on considère en outre que ces conférences sont désormais retransmises en direct, on mesure aisément l'enjeu qui s'attache à ces prises de parole qui, lorsqu'elles interviennent très en amont de l'enquête, obligent à juger au trébuchet ce qui peut être dit ou ce qui doit être tu, et imposent une vigilance constante sur les choix des mots pour ne pas contribuer à la diffusion d'une approximation ou, par exemple, une accusation ad hominem insuffisamment étayée. En guise de conclusion, quelques libres considérations sur le statut du ministère public. Avant même mon propos, mesdames et messieurs les membres de l'Académie, vous le saviez, dans notre pays, la défense de l'intérêt général devant les juridictions pénales est confiée à un corps d'agents publics qui sont à la fois des magistrats de l'ordre judiciaire et membres d'une institution hiérarchisée au sommet de laquelle se trouve le garde des Sceaux. D'aucuns souhaiteraient que les parquetiers soient détachés de la magistrature afin de rejoindre les rangs de la fonction publique d'État. Il ne saurait être question de contester ici l'honorabilité du statut de fonctionnaire. Il s'agit par contre de bien identifier ce qui, dans le statut de magistrat du parquet, offre des garanties, non pas à ces magistrats, mais aux justiciables qui ont affaire à la justice pénale, garanties que le statut de fonctionnaire ne me paraît pas offrir. Elles sont au moins au nombre de deux. La première est l'exercice du principe de l'opportunité des poursuites. Ce pouvoir n'est certes pas absolu, mais il permet au procureur de décliner les instructions générales du garde des Sceaux et de les adapter aux spécificités de son ressort, en tenant d'abord compte de la capacité de traitement de la police et de la gendarmerie, comme celle des juges. Cette prérogative, qui constitue une première étape dans l'acte de juger, doit être, dans l'intérêt du justiciable, l'apanage d'agents publics bénéficiant de la forme d'indépendance que confère le statut de magistrat et comptable de l'exigence d'impartialité qui en découle. Force est d'ailleurs de constater que le législateur en est désormais convaincu, puisqu'il a privé le garde des Sceaux, par la loi du 25 juillet 2013, du pouvoir de délivrer des instructions individuelles et confié à un magistrat, le procureur général, le pouvoir d'émettre des instructions de poursuite. La garantie pour les citoyens que représente l'exercice de l'accusation par un magistrat bénéficiant d'un statut lui assurant une certaine indépendance, mais pas totale, ce n'est pas contestable, est d'autant plus indispensable que désormais, à l'heure de l'hypertransparence et de l'emballement quasi permanent de la justice médiatique, l'action de poursuivre en justice et d'accuser devient presque aussi lourde de conséquences personnelles et sociales que celle ou celui qui l'a, pour celle ou celui qui l'a subi que l'action de juger. Surtout, ce que semblent ignorer les tenants d'une fonctionnarisation du parquet, c'est que la réalité d'une justice pénale dont j'ai tenté de vous dresser une esquisse est celle d'une justice dans laquelle l'intervention du juge n'est qu'une des réponses pénales données aux actes de délinquance. Si donc un nombre très important et grandissant de justiciables voient leur sort confié au seul procureur, en quoi retirer à ceux-ci les garanties statutaires qu'ils partagent en partie avec les juges constituerait-il un progrès pour l'état de droit ? La seconde garantie que confère aux justiciables l'appartenance du parquet à la magistrature est le principe de la servitude de la plume et de la liberté de parole. Lorsqu'il formule son accusation par écrit, le procureur s'inscrit pleinement dans une institution hiérarchisée, dont la fonction consiste notamment à décliner, de manière loyale et avec le souci de l'égalité des citoyens devant la loi, la politique pénale du gouvernement. Ces écrits sont soumis à un strict principe hiérarchique et engagent en cela la responsabilité du chef du parquet. Au contraire, lorsqu'il porte une accusation individuelle à l'audience, par oral, et lorsqu'il s'agit d'une étape décisive dans la mise en cause de la présomption d'innocence de celui ou de celle qui est poursuivi, le magistrat du parquet doit apprécier de manière individuelle et en conscience la portée des éléments à charge et à décharge issus du débat judiciaire. Comment imagine-t-on concilier cette garantie pour le justiciable avec le principe même du statut de fonctionnaire qui suppose que celui qui en relève ne puisse s'exprimer en son nom propre ? Et comment imaginer qu'une telle fonctionnalisation des procureurs et la dépendance qu'elle porte en germe puisse améliorer la confiance de nos concitoyens dans l'impartialité de ceux qui engagent les poursuites et requièrent les condamnations ? Si le parquet à la française est une caractéristique de notre organisation judiciaire que la culture juridique anglo-saxonne dominante à l'international a du mal à appréhender, elle n'en constitue pas moins une garantie pour le justiciable et pour l'état de droit. Ils permettent en effet de concilier les exigences de cohérence et d'égalité dans la mise en œuvre de la politique pénale décidée par le garde des Sceaux avec la nécessaire prise en compte des situations individuelles lors de l'exercice de l'action publique au cas par cas. Si enfin la nomination des cadres de ce parquet, que sont les procureurs de la République et les procureurs généraux, obéissait non pas seulement en fait, mais aussi en droit à une procédure nécessitant un accord entre le pouvoir exécutif et le Conseil supérieur de la magistrature, la garantie non pas d'indépendance, mais d'impartialité, pour les justiciables, n'en serait que plus grande. Sans en faire une révolution institutionnelle, il faut pour cela une réforme de la Constitution, tellement consensuelle qu'elle fut adoptée dans son principe en 2016 par le Sénat et l'Assemblée nationale, sans que le processus, malheureusement, n'aille à son terme. Disons que je n'ai rien dit, concluait M. Sureau au terme de son exposé en janvier dernier. J'espère pour ma part avoir humblement mais utilement plaidé la cause de celles et ceux qui, au nom de l'intérêt général, ne cessent de requérir. Je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup, Jean-Baptiste Bladier, pour la façon dont vous avez fait vivre, à travers le parquet de Meaux, les fonctions de procureur de la République en 2024 en France à l'heure actuelle. Et Dieu sait si l'on en voit souvent, puisque vous avez quasiment terminé par les rapports avec les médias sur les écrans de nos postes de télévision.